Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, je m'appelle Maryse, je suis une étudiante et une féministe anarchiste.
Si je te rencontre aujourd'hui, c'est pour parler d'une manifestation qui avait lieu samedi à 17h contre l'exploitation sexuelle dans le cadre du Grand Prix. Pourquoi avoir organisé cette manifestation?
Ben en fait, il y a beaucoup, entre guillemets, les pitounes du Grand Prix, où ça soit toutes les bars de danseuses, toute une espèce d'industrie, je dirais, de l'exploitation sexuelle des femmes qui est autour du Grand Prix. Puis il y a vraiment comme une espèce de corrélation drôle, et bien surtout malsaine, entre comme des événements sportifs. Puis l'exploitation des femmes, c'est comme on dirait que l'expression d'une virilité là, qu'on a construite socialement. On a vu pour l'Euro 2012, ben Femine qui a fait des actions dans ce cadre-là pour dénoncer l'exploitation sexuelle. On s'est rendu dans un cadre là, qui est assez international là, par rapport à les Grands Prix, événements sportifs et l'exploitation des femmes. Comme on a pu voir aussi à Vancouver pour les Olympiques, il y avait vraiment eu une explosion de bordel là, pendant le temps des Olympiques. Et il y avait évidemment une surabondation de femmes autochtones, ce qui est quand même déplorable parce que c'est aussi fait sur leur terre sans leur consentement, évidemment. Fait que moi, je trouvais que c'était intéressant d'amener une perspective féministe, abolitionniste dans le cadre du Grand Prix. Parce que je trouve que c'était quasiment un consensus qu'on sent mal pour ces femmes-là, puis on trouve un peu dégueulasse les hommes qui vont là, puis qui prennent des photos avec elles toute la journée, qui les abusent, qui les tripotent, puis qui les prennent clairement pour des objets. Dernièrement, dans les deux dernières semaines, en tout cas dans un contexte montréalais québécois, il y a eu le Conseil du statut de la femme qui est sorti pour dénoncer, bon, qu'est-ce qui était, genre, la légitimité qu'on donnait à la prostitution, puis pour essayer d'amener une perspective abolitionniste. Puis t'as aussi, donc, mettons, on va dire, Marie-France Bazot, puis Maria Mourani, qui avait des sorties par rapport à la procession et le Grand Prix. Donc, c'était, il y avait déjà eu une certaine concentration de la population à ce sujet-là, dans le milieu militant aussi. C'est sûr que, bon, il y a toujours des décisions, mais en fait, je trouvais que c'était comme très pertinent, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions ou de manifs féministes dans le cadre de la grève ou même dans l'année. Puis, bon, aussi beaucoup d'actions abolitionnistes. Donc, je trouvais que c'était vraiment pertinent de le faire parce que pour moi, ça saute aux yeux. Puis c'est vraiment comme très lié. Toutes les promotions qu'ils font par rapport aux industries du sexe, comme on a pu voir dans les rues dans le coin de Crescent, il y avait plein d'hommes qui allaient recruter d'autres hommes pour qu'ils viennent dans les bars de danseuses. Puis il y avait beaucoup de petites cartes d'affaires, de salons de massage, de salons érotiques, des bars de danseuses qui étaient distribués là, allègrement dans les rues. Moi, en tout cas, personnellement, avec d'autres militants et militantes, on allait faire du tractage sur Crescent aussi. Et dans les environs sur Sainte-Catherine, c'est un petit pamphlet informatif qui disait en fait que la majorité des femmes dans la prostitution souhaitent en sortir. De 92 à 95% des femmes souhaitent en sortir, avec toujours un témoignage d'une femme qui a vécu le Grand Prix ou l'exploitation sexuelle. Avec aussi un autre acte qui disait que en fait la majorité des femmes, 80% des femmes qui sont dans l'industrie du sexe sont rentrées à l'âge de 14 ans. Donc, pour montrer un peu l'envers de la médaille là, de la belle femme qu'ils voient puis qui veulent se déculpabiliser là, pour leur prochaine agression. Donc, c'est un peu ça. C'était vraiment évident. Fait qu'on a pris la porte grande ouverte. On a aussi fait aussi de l'affichage dans les rues sur Saint-Denis et Saint-Laurent. Puis, c'était l'affiche. Donc, on a repris le logo de la Formule 1. Puis, on a rajouté la Formule 1 de l'exploitation sexuelle ou Formula 1 of sexual exploitation. Pour vraiment mentionner que c'est le cas figure l'exploitation des femmes qui est liée toujours à un événement où il y a une forte majorité d'hommes.
Quels sont les facteurs qui font en sorte que les femmes restent dans l'industrie du sexe?
Ben, à mon sens, hein, je ne suis pas la spécialiste de renom, mais en fait, c'est sûr que déjà, pour que tu rentres dans la prostitution, tu as déjà eu beaucoup, beaucoup de facteurs qui t'ont vulnérabilisé. C'est-à-dire la violence des hommes, donc agression, attouchement, violence psychologique, physique et économique aussi. Donc, tu as beaucoup, toute une espèce de... Ça rentre dans un continuum de violence. Donc, que ce soit une femme qui vit une pression économique, qui a déjà aussi vécu des agressions sexuelles ou de l'inceste, bien là, en fait, elle a déjà eu comme message que son corps pouvait être réduit à un objet, que sa valeur, c'était ça, et que là, elle a besoin d'argent. Donc, ça fait deux conjonctures, si je peux dire, qui font que c'est quand même un beau cocktail explosif pour qu'elle se rende dans la prostitution, surtout si elle est isolée, surtout si elle subit d'autres oppressions, comme si c'est une femme racisée, si c'est une femme autochtone, une femme immigrante, une mère monoparentale, ou même, on parle aussi de prostitution étudiante, donc une jeune étudiante. Ça fait beaucoup d'oppressions et de vulnérabilisations que ces femmes ont subies. ce qui font qu'elles sont rentrées dans la prostitution. Et dès que tu rentres dans la prostitution, dès le premier client prostitueur, ça te déconnecte vraiment quelque chose en toi. Faut que tu déconnectes pour pouvoir survivre à ça. Donc, c'est comme un peu la violence conjugale, hein? On s'entend tous que c'est pas la même chose, sauf que c'est dans les mêmes patterns de, ben là, pourquoi la femme, elle reste là dans un cas de violence conjugale? Mais on s'entend-tu qu'il y a une dépendance économique qui rentre? Elle a été vulnérabilisée, elle a même pu être forcée à être dépendante à cet homme-là. Puis là, c'est sûr que, bon, là, il doit y avoir des facteurs psychologiques qui font que elle doit travailler sur elle, elle doit comme faire de l'empowerment pour pouvoir peut-être en sortir. Puis en même temps, il y a des femmes qui s'en sortent, mais qui retournent. Fait que c'est toujours quelque chose qui est super, vraiment, en guillemets, tricky à comprendre. Parce que tu dis, mais là, ça a été sorti, c'était évident, ou ben là, elle a juste à sortir, puis ça va être correct. Mais en même temps, c'est tout un cas, tout un mode de vie que tu as été habitué de vivre. Je veux dire, dès le premier client prostitueur, déjà, tu es tout de suite dans un cadre de... Ah ben là c'est correct, tu sais, il n'a pas été si pire, tu sais, il est agressif, mais tu sais, puis là il y a aussi l'argent qui rentre très rapidement, donc ça fait vraiment comme, c'est comme un peu le bombe sur la plaie, mais tu sais que ta plaie est infectée puis ça continue, mais en même temps t'as toujours le bombe, puis là t'as aussi la drogue qui rentre en jeu, donc tout ce qui est consommation pour pouvoir engourdir ses émotions, son corps, puis il y a aussi beaucoup de facteurs psychologiques qui embarquent là, ces femmes-là, ils deviennent suicidaires s'ils ne l'étaient pas déjà avant. Il y a un facteur d'estime d'elle-même qui, évidemment, t'as pas une énorme estime de toi quand toute ta vie, on t'a craché dessus, on t'a violenté. Puis c'est aussi par rapport aux hommes, ben c'est que tu dis, ah ben c'est ça mon rôle, c'est ça le rôle des femmes par rapport aux hommes. Puis là, je fais ça, puis il n'y a pas personne qui vient m'aider, puis il n'y a pas personne qui trouve ça critiquable, même on banalise qu'est-ce que je fais, fait que c'est correct. Dans le fond, je vais continuer. Contrairement peut-être un peu à la violence conjugale, qu'on s'insurge un peu, que les politiques qui sont faites, qu'il y a beaucoup d'interventions, encore quand même à moindre mesure là, vraiment comparé à ce qu'il faudrait, mais la prostitution, il n'y a pas beaucoup d'alternatives de sortie, il n'y a pas beaucoup d'aide pour sortir aussi, ce qui fait que ben je veux dire, quand t'es là-dedans, tout ce qui se fait dire c'est comme ah, ben change de place, peut-être ça va mieux aller, peut-être que c'est pas fait pour toi, prendre une pause, change de proxénète si tu peux, ou tu sais comme salon de massage c'est mieux, ah ben là si tu vas escorte indépendante tu vas être correct. Toujours ça, mais ça reste que c'est de la violence, la prostitution. Quand tu es rendu à pouvoir survivre à travers cette violence-là, par les drogues, par l'association de ton corps, ben à un moment donné, là, tu continues, puis tu te fais dire que c'est un métier comme un autre, c'est le plus vieux métier du monde. Fait que là, tu t'essaies d'avoir des mécanismes de défense qui te disent, ah ben dans le fond, c'est peut-être quelque chose de bien, je mérite ça, peut-être que je suis juste bonne à juste faire ça. Là, tu as tout ce pattern-là qui rentre, puis tu dis aussi que ben là, c'est le plus vieux métier du monde. Là, tu peux te gagner, entre guillemets, tu peux te trouver une fausse fierté. Tu peux te dire, ah ben dans le fond, c'est bien, c'est révolutionnaire, j'ai la liberté de faire ça. Puis là, tu sais, t'as aussi un discours là, qui rentre avec ça, qui est peut-être plus universitaire à mon sens, qui amène beaucoup de, ah ben dans le fond, là, j'ai la liberté de tout ça, puis c'est le subversif faire ça. Puis là, après, quand tu réalises que toute, entre guillemets, cette bullshit-là, ou toute comme les mécanismes de défense que tu t'es mis, puis là, quand la drogue commence à être plus assez forte, quand tu te déconnectes plus assez, puis que là, tu commences à voir en dedans de toi que tu vas vraiment pas bien, si tu t'es pas déjà essayé de te suicider ou si tu l'as pas déjà fait, là, tu commences à avoir un clash qui te fait dire « Ih, peut-être ». Il y a comme une petite voix intérieure bien profonde qui est, à mon sens, toujours là, mais qui est bien maganée et bien engourdie. Puis là, qui fait « Ah, là, je commence à plus pouvoir vivre. Là, c'est rendu dégueulasse ». Puis des fois, il y a des facteurs, là. Admettons qu'elle a une opportunité, quelque chose qui l'amène plus vers une sortie, une rencontre de quelqu'un, un cercle d'amis, mais en même temps, tu t'isoles, là, quand t'es dans la prostitution, tu as une double vie. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font que, ben, elle ne sort pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, la force des choses, parce que c'est vraiment violent, cette industrie-là, va faire que tu vas en sortir si t'es encore en vie, si t'es encore correct. Ce qui est quand même assez moindre comme proportion de femmes, malheureusement. Ben là, après, tu vas commencer à tout vivre, qu'est-ce que tu as vécu. Puis là, c'est le pire, c'est le après. Parce que le pendant, t'es quand même engourdi. Puis bon, t'as les bleus, t'as les cicatrices, mais c'est le après quand t'as toutes les émotions qui te reviennent. T'as toutes les flashs, t'as les stress post-traumatiques, t'as tout qu'est-ce qui est la dépersonnalisation, la déréalisation. Donc, tu te déconnectes de ton corps, la réalité elle devient abstraite. Puis que c'est plus palpable, là, à un moment donné, tu fais « OK, dans le fond, j'ai vécu vraiment quelque chose de lourd. » Puis là, il y a encore, là, pas de ressources pour aider ces femmes-là, pas de ressources pour le nombre de femmes qui sont là-dedans, pour les aider à se mettre sur les rails, entre guillemets, là, puis leur trouver quelque chose qui les convient, prendre soin d'eux d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue financier, puis de se faire un réseau d'amis, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la prostitution, c'est sûr, tout ça. C'est très présent, là, c'est très facile là, rentrer là-dedans pour une femme qui a nécessairement besoin d'argent puis qui a vécu de la violence par les hommes. C'est quand même assez facile, mais c'est très difficile d'en sortir parce qu'il n'y a pas d'alternative puis que tu vois ça partout. Puis qu'à un moment donné, quand tu as un trou de 10 ans sur ton CV, ben comment tu l'expliques? T'sais? C'est rendu un peu difficile. Puis là, à un moment donné, ben, rendu là, t'es mieux de continuer, entre guillemets, parce que sinon, ben tu vas te retrouver soit sur le bien-être, t'as peut-être des enfants à charge, t'as de la consommation à payer, t'as encore plein de trucs. Fait que là, c'est la seule alternative qui te reste, donc t'as pas de choix. Pour moi, aller dans la prostitution, c'est une absence de choix, puis y rester aussi, à mon sens.
Quelles sont les voies qui pourraient permettre de s'en émanciper, selon toi?
De t'en sortir?
D'en sortir.
Ben, en fait, c'est quand même toutes des questions, parce que on est dans un contexte où on pense que, quand même, un lobby, là, pro-travail du sexe, qui dit que dans le fond, c'est correct la prostitution, tu sais, qu'il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de travail qui est fait sur, mais comment on peut les sortir? Quelle manière on s'y prend si elles le désirent? Évidemment, là, c'est pas de les prendre de force, mais en moi, j'ai une conviction profonde que ces femmes-là ne sont pas là par plaisir et que si elles avaient des alternatives qui étaient quand même, on s'entend que travailler au Walmart au salaire minimum versus la prostitution, c'est pas une vraie alternative, là, à mon sens, ça reste quand même. Bon, c'est plus l'exploitation sexuelle, mais c'est l'exploitation par le travail, là. Mais, tu sais, pas beaucoup d'alternatives. On dit que c'est pas correct qu'il y ait des alternatives parce que c'est correct qu'ils font ce choix-là. Les femmes sont majoritairement consentantes, elles sont libres de le faire. Fait qu'il y a un discours qui est là. Donc, il y a pas d'alternatives qui sont vraiment mises en place. Puis c'est très difficile de s'inscrire dans cette espèce de contexte-là. Il y a des organismes dont, si je peux parler de La Clé, qui est malheureusement un des seuls. Ce serait le fun qu'il y en ait d'autres avec d'autres perspectives, avec d'autres approches qui pourraient peut-être conjuguer les deux visions, qui pourraient essayer de ne pas faire une scission aussi grande entre les abolitionnistes et les pro-travailleurs du sexe. Peut-être que ce serait le fun qu'il y ait des ressources qui seraient moins dans la dichotomie politique, là, peut-être. Mais ça serait agréable, effectivement, qu'il y ait beaucoup plus de ressources comme des logements pour les femmes. Parce qu'évidemment, il faut qu'elles se logent à quelque part. Des logements sécurisés pour pouvoir les protéger, bon, ben, des hommes, des proxénètes, etc. Des espèces d'alternatives d'emploi, parce que malheureusement, ben, on est encore dans un système qui exploite les gens par le travail, donc faut trouver l'exploitation la moins pénible à vivre, si je peux dire. Quelque chose qui est par des convictions, donc ça soit truc postsecondaire à l'université. Moi, je connais personnellement beaucoup de femmes qui étaient dans l'industrie qui essaient de retourner à l'université. Et là, en même temps, on se dit, ah ben, les femmes étudiantes, ils ont besoin d'aller, malheureusement, à la profession pour étudier. Parce que là, ils sont précaires, ils ont besoin d'argent pour aller étudier. Ils ont sûrement aussi été violentées quand ils étaient jeunes. Hein. Il y a quand même énormément de femmes qui ont été violentées quand elles étaient jeunes. Et puis là, il y a aussi des femmes qui s'en sont sorties de la prostitution et qui aimeraient aussi réintégrer une certaine vie, là, entre guillemets, plus saine pour elles. Et là, elles ne peuvent pas vraiment rentrer à l'université parce que là, bon, les frais vont commencer à augmenter. Déjà, elles doivent rembourser peut-être des billes de drogue. Elles doivent déjà se remettre sur les rails. Donc là, en même temps, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Trouver des alternatives d'un point de vue du travail, là, entre guillemets, à la prostitution. Aussi un support physique parce que ces femmes-là, ben, elles sont déconnectées de son corps. Que ça soit juste, je sais pas moi, du yoga, de la course ou de la natation ou juste comme des séances de relaxation, d'étirement, de reprise de conscience de son corps, d'essayer de vraiment dire « Ah, ben ça, c'est mon corps, c'est à moi. Il appartient plus à des hommes qui vont le violenter pour de l'argent, il est à moi. » Essayer de comme, faire une réappropriation comme ça. Aussi, surtout, un suivi psychologique, évidemment. Puis je dirais pas dans un sens de faut les toutes les psychiatriser, là, pas du tout. Plus de la psychologie communautaire, évidemment, là, ou juste des cercles de discussion entre femmes qui sont encore là-dedans, qui essaient d'en sortir, ou juste des femmes qui sont là-dedans, qui ont envie de discuter de leur vécu, tout simplement, puis qu'elles n'ont pas encore un désir de sortir, ou etc. Donc, des femmes qui essaient de s'en sortir, d'autres femmes qui en sont sorties, et un peu d'autogestion, là, dans un moment de vie qui est quand même assez intense, là, qui est comme la prise de conscience, la tentative de sortie, la sortie. Donc, ça serait vraiment le fun qu'il y ait beaucoup de groupes de discussion sur tout ce qui est prostitution, le vécu, l'impact. puis aussi beaucoup créer un réseau social pour ces femmes-là. Parce que souvent, bon, ben là, tout ce qu'elles ont comme réseau social, c'est des femmes qui sont dans l'industrie. Et je dis pas qu'il faut pas se tenir avec des femmes qui sont dans l'industrie, c'est pas ça que je veux dire. Mais en même temps, ben, il faut une petite coupure. Parce que sinon, c'est très facile d'y rentrer, comme je disais. Et puis aussi, beaucoup essayer de couper les liens avec des hommes, que ce soit des conjoints violents qui profitaient de la prostitution, des proxénètes, conjoints violents. Donc, tout ça. Et tout ce qui est les dealers de drogue et tout le monde qui gravite un peu autour. Donc, essayer de trouver genre des amis, que ce soit juste des femmes là, qui n'ont pas nécessairement été dans l'industrie, mais que ce soit des féministes ou juste comme des femmes qui sont intéressées à entendre leur vécu. Donc, ce serait vraiment fun de créer un réseau de solidarité pour ces femmes-là et entendre vraiment leur voix. Parce que la voix que j'ai majoritairement, ben, pas la voix, mais les voix que j'ai entendues majoritairement autour de moi, c'était qu'elles ne feraient pas ça si elles avaient eu une alternative. Elles ne souhaitent pas continuer, mais elles n'ont pas d'alternative, donc à défaut, elles continuent. C'est pas des récits roses que j'entends. Elles ont quand même une vie, elles ont quand même eu des sourires, elles ont quand même ri, elles ont quand même eu du plaisir, si on peut se dire, pendant tous ces moments-là. Je veux pas dire que c'était... Pour majoritairement, beaucoup, c'est l'enfer, mais tu sais, il y en a qui vont pas tout cracher là-dessus, quand même vécu des moments malgré tout. Tu sais, je veux dire, c'est des femmes qui sont extrêmement fortes, qui peuvent voir quand même des rencontres avec d'autres femmes du positif, tu sais, ou des choses comme ça. Moi, je trouverais ça bien, effectivement, qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture envers le vécu des femmes, parce qu'on entend souvent le vécu de certaines femmes, parce que ce vécu-là, il plaît. C'est vraiment marketing, tu sais, dire « Ah, ben moi, là, je suis courtisane, je fais ça, ça me va très bien, je ferai jamais rien d'autre au monde. Moi, je domine les clients prostitueurs, je suis vraiment au-dessus de mes affaires. » C'est souvent le discours de femmes qui sont privilégiées dans l'industrie du sexe qu'on entend.
Qui est récupéré par toute une élite intellectuelle aussi.
Exactement, exactement.
Défendu par même des militants, y compris anarchistes.
Oui, effectivement. Merci de me lancer là-dessus parce que, tu sais, effectivement, je suis à l'université d'études féministes, donc je suis en plein dans le bain un peu. Je me dis ceci pas non plus que je fais quand même partie d'une certaine élite universitaire. Mais n'empêche que, ben, j'ai quand même été dans l'industrie du sexe quand j'avais 16 ans. Et je sais un peu, en fait, je sais pas mal c'est quoi l'industrie du sexe. Je trouve un peu, des fois, dommage qu'on ne veut pas entendre ma voix ou que je sois obligée de dire que j'étais dans l'industrie du sexe pour que mon discours soit entendu. Puis, mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont pro-travail du sexe qui ne sont pas obligées de dire qu'elles ont été dans l'industrie du sexe. C'est comme si c'était la position qui était correcte, qui était politiquement correcte. Tu sais, dire prostitution, c'est mal. Travail du sexe, c'est ça. Mais tu sais, ça reste des termes, on s'entend, mais c'est sûr que les termes ont une connotation là, très, très politique. Là. Moi, ça me dérange pas, on parle de termes. Là. Moi, je parle vraiment d'une perspective de... Ça peut être un travail, c'est correct, mais c'est le pire travail qui existe. Fait qu'on va pas dire que c'est correct. Pour moi, le mot travail, mais comme une espèce de voile légitime. Puis pourtant, ben beaucoup d'anarchistes disent « Ah, ben le travail, c'est l'exploitation ». Et là, c'est l'exploitation sexuelle, donc c'est pire que l'exploitation de la force de travail. C'est l'exploitation du corps d'une femme, l'exploitation d'un vécu complet d'une femme, d'une personne. Et là, ça rentre dans des logiques de rapport de domination, que ce soit par le colonialisme, l'impérialisme, que ce soit tout par le racisme, l'âgisme, le classicisme, et là, sexisme, misogynie, name it. La prostitution, à mon sens, subsiste qu'à cause des cadres d'oppression. Et là, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui se disent, bon, anticapitalistes ou anarchistes et qui font comme, oui, mais tu sais, dans le fond, tu sais, la prostitution, ça pourrait exercer hors de ces cadres-là ou dans le fond, faut pas taper sur ces femmes-là, puis c'est correct, tu sais, elles font le choix. Là, de tout le faux discours de la liberté, pour moi, c'est comme, ah, ben là, si elles font le choix, si elles sont consentantes, dans une société où il y a tellement de rapports de domination, tellement de rapports d'exploitation, la notion de choix et de liberté, pour moi, est complètement biaisée et pervertie. Elle n'existe pas. Là, en plus, c'est sûr, c'est séduisant hein, pour des anarchistes anticapitalistes. Ah, elles font la liberté de le faire, c'est subversif, c'est révolutionnaire. Ben non, c'est pas révolutionnaire. Ça a commencé, à mon sens, dès comme le berceau du patriarcat. C'est pas le plus métier du monde, parce que ça, c'est très réducteur pour tout ce qui est genre la sexualité humaine, les rapports hommes-femmes, c'est très réducteur. C'est comme si on avait toujours eu, nous, les femmes, la tentation là, de vendre notre corps et vendre notre âme pour un maigre profit à des hommes. Puis je trouve ça vraiment réducteur, là, tant des hommes que des femmes. Évidemment, bon, c'est toujours les femmes qui en payent le prix, mais c'est toujours quelque chose, un discours que je trouve incohérent. à mon sens. Parce que, personnellement, je suis anarchiste, donc je suis anticatholiste, c'est anti-rapport de domination. Je ne comprends pas, pour moi, c'est pas palpable leur analyse dans le sens que ils, elles sont séduites par le discours de liberté. T'sais, ils ont la liberté de faire ça. T'sais, dans le fond, là, à la place qu'elles se font violer, ben là, elles demandent de l'argent pour. Fait que c'est comme si c'était quasiment... ah, ben là, en plus, elles peuvent dominer les hommes. Ça peut comme être une vengeance. Puis, tu sais, tout ce qui est... ah, ben là, on fait de la pornographie. C'est comme toute la vague sexpositive, là.
C'est un sentiment que d'imposer particulièrement aux femmes, ouais, de devoir aimer ça.
Effectivement. Puis présentement, je choisis de ne pas avoir de sexualité parce que j'ai tellement été abusée de ma sexualité que là, je vais prendre une pause pour moi. Dire que les abolitionnistes, ben dans le fond, elles sont toutes inspirées d'une idéologie conservatrice. Puis que on est dans un contexte où... désolé, mais tu peux pas avoir une sexualité épanouie dans un contexte comme ça. Tu peux peut-être par moment, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de rapports de domination. Puis bon, effectivement, il y a l'hétérocentrisme qui est là à profusion, là. Et puis la lesbophobie aussi. Donc là, tu sais, tu peux te dire, est-ce que tu as vraiment une sexualité épanouie? Puis là, tu as toute la pornographie liée extrêmement à l'industrie du sexe. Pour moi, la pornographie, c'est de la prostitution. Et puis là, on utilise toujours les femmes. Tu sais, pour moi, le mot pornographie veut dire faire voir les femmes, étymologiquement. Donc, tu sais, ça en dit long un peu, là. Et, je veux dire, la vie des femmes dans la pornographie, c'est vraiment dégueulasse. À mon sens, j'ai entendu beaucoup de témoignages et c'est vraiment une vie que comme personne ne voudrait avoir. Puis t'as tout le côté glamour qu'on dit aux jeunes femmes, tu sais, être porn star, c'est beau, tu sais, mais je veux dire, à un moment donné, là, tu peux plus te regarder dans le miroir tellement que tu vois juste la violence que les hommes t'ont faite. Pas parce que tu te sens coupable, mais parce que tu sais même plus comment tu continues à aller au-delà. C'est rendu grave à mon sens. Puis toute la pornographie fait la promotion de l'industrie du sexe, et etc., vice-versa. Donc pour moi, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui se disent militants, militantes, et qui décident de faire, bon là, on va faire de la porno, puis dans le fond, tu sais, on va tout être libérés, puis là, comme, on va faire ça comme ça, tu sais. Je veux dire, ça reste quand même dans un contexte que t'auras quand même des hommes, majoritairement, qui vont se masturber là-dessus en ayant des pensées qui sont, à mon sens, vraiment... pas saine pour comme l'humanité, et comme ça reste quand même que tu peux pas rejeter que ben la femme avec un certain corps, c'est pas parce qu'elle le vit bien elle qu'elle va être perçue par la société comme ayant genre le corps idéal non plus. Donc il y a toujours un rapport de bon ben dire oui, la diversité corporelle on peut la vivre, mais en même temps il y a un travail dans la population. C'est pas parce que tu dis ah ben moi je me sens libre que tu n'as plus d'oppression, que tu n'as plus tout le contexte. Puis ça, je trouve que c'est vraiment dans toute la perspective queer et pour le travail du sexe qui dit que je m'autodétermine et là, je vais faire les choses individuellement, mais collectivement. Genre, il n'y a aucune action politique, à mon sens. Deuxièmement, ben, je trouve qu'il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience d'une réalité. C'est sûr que l'objectivité, bon, c'est sûr qu'elle n'existe pas, mais je veux dire, c'est pas parce que tout le monde décide de s'autodéterminer d'un certain sens qu'elles ne vivront plus l'oppression qu'elles vont vivre. Par exemple, si un homme décide de se dire « Ah ben moi, aujourd'hui, je suis une femme », mais est-ce qu'il va, pendant cette journée-là, vivre la même oppression que des femmes? Est-ce qu'il va rejeter tous ses privilèges d'homme? Je pense pas. Est-ce qu'il va, pendant la journée, subir la contrainte à la maternité, subir la peur du viol, que ça soit tout ce qui est genre le salaire? Est-ce qu'elles vont vouloir laisser 30% de leur salaire? Est-ce qu'on va vouloir laisser toute la solidarité masculine qui est tellement forte, qui permet comme aux hommes de dominer? Ou est-ce qu'ils vont s'isoler en devenant, entre guillemets, avec la passivité des femmes? Est-ce qu'elles vont toutes s'habiller avec autant de contraintes que les femmes doivent s'habiller? Est-ce qu'elles vont être perçues et comme regarder avec autant genre de mépris par les hommes, je le sais pas. Fait que c'est tout ça que je critique.
Les années de brainwashing, d'éducation, d'aliénation au fait d'être une femme aussi.
Oui.
Que t'as pas vécu, oui. Si t'es un trans ou si t'es un homme qui se travestit ou je ne sais quoi.
Ben c'est ça. Je veux dire, je ne veux pas non plus cracher ces personnes-là parce qu'elles vivent, à mon sens, une pression qui leur est spécifique. Mais je trouve que beaucoup... là, j'ai pas vraiment envie d'entendre dans le discours trans, mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que c'est trop peu entendu, cette voix-là. Mais je trouve que le discours trans prend tellement de place dans le mouvement féministe. Je me questionne parce que, tu sais, c'est comme si un peu... là, je fais une analogie qui peut être correcte ou pas correcte. Là, je la propose. C'est comme si un homme blanc déciderait d'aller dans un regroupement de personnes racisées. Et que là, qui dirait, moi, je me détermine comme homme autochtone ou comme homme noir. Et là, je m'en viens participer à votre discussion. Et là, après, que cette personne-là qui participe aux discussions-là, cet homme-là, qui se revendique pour ce moment-là noir, et là, il arrive et là, il dit « Moi, je sais plus c'est quoi l'oppression que tu vis. » Et là, qui se met à monopoliser le discours, et là, qui se met à changer d'orientation un peu de toute l'organisation que les personnes racisées s'étaient déjà dotées, et que là, qui savent donc bien qu'est-ce qu'ils font, et que là, les revendications politiques deviennent plus floues, puis là, ils commencent à être infiltrés par plein de personnes qui se disent noires. Et là, tu sais, je donne un peu cette vision-là à la Orwell, là, mais je trouve vraiment que c'est un peu ça qui arrive avec tout ce qui est trans. Parce qu'en fait, ils deviennent de plus en plus dans le milieu féministe, puis moi, je suis super ouverte à entendre leur discours, puis je suis pas transphobe du tout, mais je tiens beaucoup. Parce que, je veux dire, on représente quand même plus de 50% de la population, nous, les femmes, mais je sais que le « nous », il n'est pas du tout homogène. Mais là, qu'on commence à se faire infiltrer, à mon sens, c'est des hommes, ou par des personnes qui ont des privilèges. Et c'est sûr que je ne peux pas nier que dans le mouvement féministe, il y a des femmes qui ont beaucoup de privilèges. Mais en même temps, que là, ils commencent à infiltrer. Puis là, on commence, les ressources que les femmes s'est dotées entre elles commencent à être un peu dispatchées. Puis là, c'est pas comme si on avait ben du financement puis beaucoup de visibilité et de pignon sur rue, là, etc. Donc là, ils commencent à couper et à venir. Je trouve ça dommage. Puis aussi, je trouve que ça monopolise beaucoup le discours des féministes. C'est des questions autant que la prostitution, mais je trouve que la question de la prostitution est beaucoup plus, à mon sens, pertinente parce que ben, on sait que 90% des personnes dans la prostitution sont des femmes, là, tandis qu'il y a quand même beaucoup plus de prostitution, à mon sens, que de personnes trans qui vivraient vraiment des oppressions qui seraient très, très, très proches des femmes, là. N'empêche que je trouve ça quand même un peu critiquable, surtout que là, on se regroupe plus, selon les trans, sur le vécu, sur l'oppression que les femmes vivent, mais sur une identité de femme. Puis il me semble que le féministe radical, les féministes anarchistes, on s'est pas regroupé sous une identité de femme, on s'est regroupé sous une oppression, des oppressions semblables, un vécu semblable. Et là, nous, on est contre une identité femme, on est contre une identité homme. Puis je veux dire, c'est pour ça que il y a bien des théories queer que j'aime bien, mais c'est la manière qu'il et elle le portent et qui focalise uniquement là-dessus sans tenir compte de toute l'analyse du contexte, l'analyse des rapports de domination que les féministes radicales et autres féministes et féministes anarchistes avaient déjà postulé. Je trouve que c'est vraiment une retombée là, très bas des féminismes, à mon sens, là. Je veux dire, on s'est toujours dit qu'on voulait pas se regrouper sur le fait que nous, on portait du rose, puis qu'on avait des stéréotypes. C'est sûr qu'on subit l'oppression des stéréotypes. C'est sur cette base-là qu'on veut se regrouper, pas sur la base que ben moi, aujourd'hui, j'ai la liberté de dire que je veux vivre, en guillemets, je veux voir c'est quoi le trip, parce que c'est rendu un trip de vivre les oppressions des autres, un peu, à mon sens.
Si on parle de toutes ces tensions-là, puis particulièrement les tensions sur les interpellations, sur la prostitution, aussi les débats entre, appeler ça exploitation sexuelle, parce que c'est de l'exploitation plutôt que travail du sexe, et toutes ces choses-là, entre les abolitionnistes et les pro-travailleuses du sexe, c'est aussi que la manifestation dont tu faisais partie de l'organisation a été dénoncée par des gens disant que vous étiez contre les travailleuses du sexe, que c'est une manif contre elles. Alors que, en le fond, la manif est une manif contre l'exploitation sexuelle et personne n'a envie de se faire exploiter.
Exactement. Mais ça reste toujours dans ce même discours-là. Hein. C'est pas les premiers événements qui ont lieu qui sont vivement critiqués par les pro-travailleurs et pro-travailleuses du sexe. Mais évidemment, je pense qu'il et elle le sentaient venir, là, un peu, parce que, je veux dire, c'est un peu évident, là. Même eux, ils ont eu la puce à l'oreille, là, comme quoi c'était un contexte parfait pour, pour une manifestation, action, dans ce cadre-là. Mais ils sont toujours aux aguets pour bien critiquer de tout de suite quelque chose qui est fait, sans nécessairement essayer d'aller voir, OK, ils ont leur opinion, leur vision, puis essayer d'aller comprendre. Ils sont toujours sur une défensive, mais pourtant, ils ont quand même le monopole du discours. Hein. C'est pas comme si, dernièrement, bon, avec des dernières sorties médiatiques, qu'on peut critiquer aussi, parce que c'est dans un angle que, ben, appliquer des lois, des politiques, ben, c'est pas dans mon champ de travail, là, mon champ de bataille, si je peux dire, là. Parce qu'évidemment, je suis une féministe anarchiste. Mais n'empêche que, dernièrement, on a eu un petit peu plus de médiatisation, là, si je peux dire. Donc là, peut-être qu'ils commencent, ils et elles commencent à s'énerver un peu, mais n'empêche qu'ils ont le monopole du discours, il y a un lobby très fort. Pas comme si, ils étaient tellement subversifs et subversifs dans un contexte où on banalise beaucoup tout ce qui est... on parle de pornographisation de l'espace public, là, d'une culture pornographique, on parle beaucoup de sexualisation, de tout ce qui peut exister entre rapports humains, là. Et on va pas dire que c'est pour rien, puis que l'industrie du sexe y est pour rien, puis que tout ce qui est le lobby des proxénètes et des clients prostitueurs, ils sont pour rien, évidemment. Mais n'empêche que, qu'est-ce qui n'est pas compris dans le discours abolitionniste, c'est qu'on n'est pas contre les femmes qui sont dans l'industrie du sexe. Au contraire, on n'est pas décidé de se lever le matin pour faire comme moi. On va toutes les sortir, puis dans le fond, c'est pas correct, puis non, faut pas qu'ils fassent ça, puis non. On s'est basé sur des témoignages de femmes qui avaient été dans l'industrie du sexe qui avaient dit « j'ai pas aimé ça ». Et les femmes autour de moi n'avaient pas aimé ça. Et je souhaite à personne que d'autres femmes vivent ça. Et je trouve ça aberrant dans une société, des personnes, donc majoritairement des femmes, vivent ça. Et donc on est parti avec ce vécu-là. On n'a pas décidé de partir dans un discours moraliste là, sur rien. Là. Mais... encore là, à chaque fois qu'on dit qu'on se base sur le vécu des femmes, qu'on se base sur des témoignages, là, on nous dit que c'est les femmes, dans leur témoignage qu'on a pris de leur vécu, ne sont pas représentatives des femmes. Comme si les personnes pour travailler du sexe avaient le monopole de savoir qui représentait et quel discours représentait plus, quel vécu représentait plus. Non, je veux dire, comme vous voulez entendre le vécu, vous voulez vous baser sur le vécu, ça fait partie de la réalité. On entend très peu des témoignages de femmes qui sont dans l'industrie du sexe qui, dans le petit contexte montréalais, là, si je peux dire, qui ont vraiment été traumatisées à vie par l'industrie du sexe et qui s'insurgent et qui souhaitent militer pour essayer d'abolir la prostitution. Mais en même temps, on n'est pas en train de dire comme c'est les femmes qui sont dans le mal. C'est pas du tout, on a une analyse qui ne cadre pas du tout avec ça. Personnellement, moi, vu que je suis peut-être plus anarchiste, donc je suis peut-être pas la même vision que certaines féministes abolitionnistes qui sont pas nécessairement des féministes anarchistes. Tu sais, moi, je pense vraiment qu'il faut pas, tu sais, prendre une femme qui est dans l'industrie, faire comme, OK, là, toi, tu sors, là, puis c'est fini. Je veux dire, c'est pas, je veux pas être autoritaire, là, non plus, là, hein, on s'entend que c'est pas ça le but. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que les pro-travailleurs du sexe s'imaginent, mais c'est partir du vécu, parce que, à mon sens, je veux dire, si tu leur proposes juste de continuer dans l'industrie du sexe, ben ils vont continuer. Si tu leur proposes des alternatives, tu leur offres vraiment quelque chose de large. Moi, je veux dire, je veux pas taper sur la tête des femmes qui sont dans l'industrie du sexe, pas du tout, parce que j'y ai été.
Tu veux pas les criminaliser non plus.
Non plus. En fait, il y a pas une abolitionniste qui veut criminaliser les femmes là dans l'industrie du sexe là, parce que évidemment, on le sait que c'est pas de leur faute là, vraiment pas, que c'est comme tous les hommes, toute la société patriarcale qui y est pour quelque chose. Même pour moi, ça rentre dans la même gamique que le viol. Au début, ah ben là, c'était la faute des femmes, puis tu sais, le discours un peu qu'il y avait avant, mais qui existe encore malheureusement, mais qui a eu un gros travail dessus. Ben là, tu sais, on se dit, ah ben là, dans le fond, non, c'est l'homme, là, c'est les hommes qui font la violence, puis non, c'est pas la femme. Donc là, évidemment, si on n'est pas rendu à ce même stade-là par rapport à la prostitution, j'espère qu'on va peut-être y arriver. Mais c'est sûr que dans un contexte de néolibéralisme, que ah, c'est la liberté, c'est comme si le corps des femmes devenait une entreprise, hein, une marchandise à la fois, tu sais, c'est l'entreprise des hommes, mais c'est... Et toi, tu es ta propre marchandise, donc c'est comme un peu... ça rentre dans beaucoup de logiques qui sont critiquables à mon sens. Je veux dire, moi, je pense que faut pas leur taper dessus, là, puis je veux dire, on peut tout aussi bien travailler dans une approche de, à court terme, réduction des méfaits. À mon sens, faut pas juste leur offrir des condoms, juste leur dire, ben change de place, ça va mieux aller. Elles te disent qu'elles n'ont pas aimé ça, elles te disent que là, il y a eu un client violent, mais... tu vas pas commencer à faire comme, mais là, change de place, ça va être correct, tout est beau. En même temps, c'est nier la violence qu'elle vient de t'exprimer, qu'elle a vécue, puis qu'elle n'a pas aimé ça. C'est à mentionner ça. Mais en même temps, c'est pas lui dire comme, ben là, finis ça tout de suite, là, je te sors là, ma petite, là, puis je veux dire, c'est pas noir ou blanc comme ça, là. C'est pour ça que je trouve dommage qu'il y ait toujours deux pôles, là, très opposés, qui est Stella et la clé. Parce que je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup d'autres organismes ou d'autres groupes féministes qui gravitent autour. Et même qu'il y ait un autre, en guillemets, là, je trouve ça touché d'utiliser ce terme-là, mais une troisième voie, ou vraiment beaucoup d'autres positionnements par rapport à ça. Parce qu'en même temps, c'est comme deux approches sont complètement différentes, mais qui pourraient s'inspirer l'une de l'autre, à mon sens. Moi, ça me dérange pas de donner des condos à des femmes parce que, je veux dire, c'est ça, c'est là, c'est le maintenant, là. Puis je comprends cela, les maintenant. Et j'aurais voulu en recevoir, moi, des condos, je le comprends. Mais j'aurais voulu aussi que quand je revienne le soir, puis que là, ça a vraiment été une soirée de merde, que là, on vienne pas me dire « Tu vas voir, demain, ça va aller mieux. » Qu'on m'écoute, puis qu'on reconnaisse que oui, c'est violent. Puis toujours dans une approche de « On part du vécu des femmes » et pas comme on leur impose une vision de leur vécu. Je trouverais ça important qu'il n'y ait pas nécessairement comme « Ah, ben là, on va t'aider à court terme parce que c'est bien ce que tu fais, il n'y a pas de problème, tout est beau. Puis si tu as un problème, va-t'en. Puis on va pas t'aider. » Puis non, on ne sait même pas pourquoi ça va pas bien. Ça devrait toujours aller bien parce que l'instruction, c'est donc bien merveilleux, c'est donc bien beau. En même temps, le discours de ben, « On n'offrira pas les trucs de raison des méfaits parce qu'on rentre dans le pattern » de l'industrie du sexe, puis on contribue à ça. En même temps, j'ai de la misère avec ce discours-là aussi, parce que regarde, elles en ont besoin. Si elle te dit « j'en ai besoin », je me sens très mal de dire non. Tout autant que j'espère qu'il y a des pro-travailleurs du sexe qui sentent mal de dire « ah ben là, tout correct, là, change de proxénète, il va être mieux. » Tu sais, là, il t'a violenté un petit peu. Tu sais, peut-être que l'autre voulait faire un peu moins. Ce discours-là aussi, j'ai de la misère. Je trouve qu'il y a un questionnement, il devrait avoir une ouverture un peu plus. C'est sûr que là, on est tellement campé dans nos positions parce qu'on se base tout, évidemment, quand même sur des vécus. Je suis convaincue que ce ne sont pas de mauvaise foi les femmes qui sont pro-travail du sexe. Je peux comprendre leur analyse. Puis je veux dire, si j'aurais tombé dans un autre milieu, puis si j'aurais été plus déconnectée de mon vécu, peut-être que je serais allée là-dedans, tu sais, dans ce mouvement-là. Puis je veux dire, je peux pas nier non plus. J'ai des amis aussi, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est plus vraiment mes amis, mais ils ont des connaissances qui y sont. Parce que pour moi, c'est vraiment comme un peu le pro-travail du sexe, ni mon vécu. T'sais, ils peuvent dire, ils peuvent y aller avec le discours de il y a des femmes qui apprécient ça. Puis tu sais, je peux toujours critiquer, mais pas de dire les femmes qui sont dans l'industrie du sexe apprécient ça, puis c'est quelque chose de bien, puis vivent l'industrie du sexe, puis on fait la promotion de l'industrie du sexe, puis on travaille avec des exploitants, avec des violeurs de femmes, puis tout est beau. Puis, tu sais, ça, j'ai un peu de la misère, là. Puis là, je généralise, évidemment. Ils vont peut-être se faire taper ses doigts. Mais aussi, je veux dire, je critique aussi en même temps la position que, ben c'est ça, c'est la voix, c'est ces femmes-là, puis c'est ça qui est ça. Puis là, ils se basent là-dessus. En même temps, je trouve que, bon, les abolitionnistes ont peut-être une vision qui est pas... les femmes sont dans l'industrie du sexe, détestent ça. Là, c'est les femmes qui disent qu'elles aiment ça, sont brainwashées. Je veux dire... Souvent, on n'arrive pas avec un discours comme ça. Parfois, ça peut ressembler, puis je trouve ça dommage. Mais on dit, ben nous, une bonne majorité des femmes qu'on a rencontrées, puis à notre sens, une bonne majorité des femmes n'aiment pas ça. Et on pense, parce que nous, on aimerait toutes pas ça. Puis on voit pas grand monde qui dise qui aimerait ça. Fait qu'on part de ça, mais on dit pas nos témoignages représentent toutes, parce qu'on le sait que, ben peut-être sur le moment, peut-être sur le coup, ben à date, c'est l'alternative, entre guillemets, dans les circonstances de domination, etc., qui plaît peut-être à certaines femmes. Puis je ne veux pas le nier, mais en même temps, est-ce que c'est comme si on avait basé nos politiques sur la violence conjugale, sur la liberté de certaines femmes à rester dans les rapports de domination? Puis là, on aurait fait, ben dans le fond, c'est les femmes qui restent dans les rapports de domination, puis qu'elles disent qu'elles sont bien là-dedans. On va pas essayer de travailler contre la violence conjugale. C'est la même chose. On va pas taper sur les femmes qui sont violentées, là, c'est un non-sens. Mais on va pas non plus pénaliser toutes les femmes qui souhaitent s'en sortir et qui souhaitent avoir davantage d'alternatives sur le moment, quitte à revenir à certaines femmes qui, sur le coup, elles voyaient pas trop la violence. Et là, peut-être après, comme moi dans mon vécu, je veux dire, au début, là, je voyais pas que toute cette violence-là que j'ai vécue. C'est vraiment par la suite que là, de plus en plus, ben, j'ai réalisé. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que, bon, les femmes qui subissent de la violence sont des niaiseuses, là. C'est pas du tout ça que je veux dire, là. Puis sinon, ben, on a tout un côté niaiseux, niaiseuse, là, en nous, sur plein de choses. C'est malheureux parce qu'il y en a que ça les désavantage plus que d'autres choses sur certains trucs. Mais n'empêche que je trouve qu'il y aurait vraiment un discours qui pourrait être plus pluriel que deux discours très campés. Puis je trouve qu'il pourrait avoir aussi beaucoup plus de liens qui seraient faits parce que le point en commun, c'est qu'on veut pas que les femmes soient criminalisées. On veut soutenir les femmes. C'est notre point en commun, c'est notre genre. Je trouve que ça serait bien. Mais c'est sûr que sur plein de trucs, ben on n'est pas d'accord. Puis là, on a, tu sais, je veux dire, moi, je me sens mal quand j'ai des personnes qui sont pour travailler du sexe, honnêtement. parce que je trouve qu'il y a des fermetures qui sont créées parce que c'est deux milieux qui sont complètement qui se côtoient pas beaucoup à part, bon, on est études féministes à l'université, mais encore là, on essaie le moins possible de faire le débat. C'est comme il y a littéralement un mur de Berlin là, entre les deux positions. Puis qu'il y a certaines femmes qui se retrouvent sur le top du mur puis sont comme, je verrais des liens. Parce que, tu sais, je veux dire, ça divise le mouvement féministe comme ça, pas d'allure, là. En même temps, je trouve ça bien que les femmes prennent position. Peut-être que c'est pas la position que je désire, évidemment, mais je trouve que ne pas prendre position, évidemment, comme la phrase célèbre des militants-militantes, c'est cautionner. L'oppression, c'est cautionner la violence. Et en même temps, prendre le côté des exploiteurs et de tous les clients, les proxénètes, etc., c'est, à mon sens, même encourager l'oppression. C'est correct, tu sais, genre, je peux comprendre peut-être que ça rentre dans leur discours qui est plus facile à porter. C'est plus rose, c'est plus marketing, c'est vendeur. Je les ai rencontrés, moi, les femmes qui sont pour le travail du sexe, puis c'est vraiment vendeur. J'étais quasiment perturbée de mes propres positions, puis après, tu te dis, ah, mais si c'est si vendeur que ça, là, il faut être alerte. Parce que, s'entends-tu, c'est pas quelque chose qui pogne, là, dire, ben là, dans le fond, la violence que tu as vécue, là, en tant que femme, ton viol, là, ça se rapproche très bien de la prostitution. Ça passe pas très bien, là, de dire que, dans le fond, là, ben, tous les hommes, là, qui vont dans l'industrie du sexe, là, qui représentent une bonne, ou tous les hommes qui regardent la pornographie, c'est comme une énorme, ben, dans le fond, là, ils sont vraiment des exploiteurs de femmes, puis c'est pas... ça passe pas inaperçu, puis c'est pas très agréablement reçu, ce discours-là. Tandis que, ah, ben dans le fond, c'est agréable, tu sais, tout le monde est consentant, c'est bien beau, c'est une orgie militante, puis, tu sais, ça passe beaucoup mieux. Tu sais, moi, j'appelle ça « Alice au pays des merveilles », là. Puis je trouve ça dommage que... parce que, en fait, l'événement qu'il y a eu samedi, en partie, ben je l'ai organisé. Puis j'étais dans l'industrie du sexe. Puis, j'ai fait de la sensibilisation dans les rues. Genre, je suis allée comme faire de l'affichage, du tractage, j'ai organisé tout ça. Et comme les autres personnes ont voulu toutes participer à ça, puis je trouvais ça super bien. En fait, c'est quand même assez rodé autour de mon vécu, puis de qu'est-ce qu'on trouvait bien qui pourrait être fait. Puis, je trouve ça dommage que là, ben on soit aussi critiqué ouvertement, comme quoi on aurait... T'sais, on aurait fait ça sans consulter des femmes, puis etc. Puis je veux dire, j'en ai côtoyé des femmes qui étaient dans l'industrie du sexe, puis que j'en leur ai parlé de ce qu'ils ont fait. Il y avait des femmes qui avaient été dans l'industrie du sexe ou qui militent et qui ont rencontré plein de femmes dans l'industrie du sexe qui étaient présentes à la manifestation. Puis je trouve ça dommage, mais n'empêche qu'ils peuvent faire leur manifestation. Je veux dire, je ne suis pas dans un contexte en ce moment, là, je suis assez pour le droit de manifester. Je serais mal placée pour critiquer ça. Mais je trouve ça un peu plate, parce que c'est pas comme si on avait bien les manifestations abolitionnistes, là. C'est pas comme si c'était... Puis on est des femmes qui se sont regroupées entre nous, puis je trouve que faut arrêter de faire des guerres intestinales dans le mouvement féministe. Faut essayer de se parler, de communiquer. C'est certain qu'il y a des animosités, puis je peux pas dire que c'est mes meilleurs amis, là. Je vais pas aller courir dans leurs bras, là, c'est certain. Mais en même temps, moi, je me verrais mal aller... essayer d'organiser quelque chose, une contre-manif sur leurs choses. Parce qu'effectivement, c'est pas comme si... ben il y avait bien les manifestations pour travail du sexe. Il y en a beaucoup plus que des abolitionnistes, évidemment. Mais, tu sais, je me sentirais mal parce que c'est une mobilisation féministe que je suis d'accord ou pas du tout d'accord avec. Je vais pas aller couper l'herbe sur le pied de militantes qui sont avec moi, qui pourraient éventuellement être militantes sur d'autres points avec moi ou comme qui pourraient très bien essayer de changer d'idée dans 10 ans, tu sais, ou en tout cas... Et non plus, je trouve que ça fait juste comme... ben là, les féministes, ils se mangent entre elles. Il n'y a pas de connotation sexuelle là-dedans. Et puis là, comme ils font juste plus faire des fronts, comme encore une autre phrase célèbre de militantes féministes, ben les femmes sont divisées et là, ben les hommes règnent tranquillement. Je pense que c'est ça que je trouve dommage. Puis il pourrait y avoir des ateliers de discussion. Là, je serais super contente qu'il y ait dans des milieux anarchistes, des milieux anticapitalistes, des milieux militants, des milieux étudiants... qu'il y ait des discussions, des forums, des discussions, que ça soit, je sais pas moi, des ateliers qui ont présenté différentes positions, tu sais. C'est sûr qu'il y a des débats, des animosités, puis c'est correct, puis c'est ça qu'il faut. Je veux dire, peut-être pas s'arracher les cheveux, mais il faut qu'on en parle, parce que là, si on reste juste avec nos idées, puis qu'on est convaincu que c'est les bonnes, mais qu'on voit pas non plus qu'est-ce que l'autre apporte, parce qu'il y a des choses que je trouve bien, que les pour-travail du sexe font. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais avant ça, il y en a quand même des choses. Mais je suis certaine qu'ils pourraient quand même s'inspirer aussi de nos visions, puis qu'on pourrait faire quelque chose de mieux, puis pas autant mobiliser autant l'énergie des militantes qui s'occupent de la question de la prostitution. Parce que, à mon sens, sinon, on n'en aura jamais fini. Personnellement, j'espère quasiment, tout comme la question de la violence conjugale et la question du viol, que les gens vont réaliser que, dans le fond, ben, c'est une violence que les femmes vivent, puis que, dans le fond, ben, faut pas s'attaquer aux femmes, il faut s'attaquer aux personnes qui sont exploiteurs, qui profitent de cette violence-là et qui violentent les femmes. Fait que je pense que peut-être, éventuellement, il y aura peut-être une position qui va être prise à ce sens-là, mais qu'on pourrait aussi très bien s'inspirer pour un côté pratique envers les femmes qui sont dans l'industrie, d'idées qui viennent des pro-travailleuses du sexe et des pro-travailleurs du sexe.
Quel bilan tu fais de la manifestation? Non seulement de comment ça s'est passé le jour même, mais de l'organisation, des débats entourant l'organisation?
Il y avait quelque chose d'autre qui était prévu, qui était plus amusant, mais bon, avec, dans un contexte extrêmement répressif, avec des effectifs policiers qui sont vraiment abusifs. L'autre action, hein, parce que c'était une manifestation, donc l'action n'a pas vraiment fonctionné, que ce soit parce que les gens se rendaient dans le métro et qu'ils ont été arrêtés et fouillés et sommés de repartir et de ne pas prendre le métro, que ce soit parce qu'il y avait juste tellement de police de la SQ qu'on pouvait même pas rien faire, là. Donc là, finalement, on a décidé, on avait aussi élaboré d'autres choses, on a finalement décidé d'aller rejoindre le rassemblement qu'il y avait au Square Phillips. Il y avait des militants, militantes qui étaient présents, qui discutaient. Il y avait, des échanges de tracts qui avaient d'ailleurs été faits par l'AC. Donc, je trouvais ça bien qu'il n'y avait pas juste nous qui avions fait du matériel éducatif là-dessus. Puis, il y avait évidemment un texte que les personnes qui ont organisé la chose ont écrit, puis qui avait été dit à moitié au porte-voix. Donc ça, je trouvais ça quand même bien, parce que là, ben, évidemment, c'était tous des abolitionnistes qui étaient regroupés, donc on n'avait pas tant de sensibilisation à faire, mais peut-être pour les gens aux alentours, juste pour vraiment avoir un discours avec la belle bannière aussi, qui était très imposante. Et là, ben, finalement, on décide de partir en petite manifestation, parce qu'on trouvait ça important de quand même continuer à faire au moins quelque chose, puis que c'est pas la police au service des exploiteurs de femmes qui allait nous empêcher, puis c'était pas tout le contexte d'exploitation des femmes qui allait nous empêcher. Et là, ben, on a essayé de partir en brève manifestation parce que la police était bien au rendez-vous. Puis j'ai quand même trouvé ça bien. Il y avait quelques slogans féministes qui ont été faits, mais évidemment, c'est sûr qu'on est quand même dans un contexte de grève étudiante, donc il y avait quand même, ben, aussi, il y avait des slogans anarchistes que, je veux dire, je suis pas contre, là, mais c'est sûr que avoir un espace, on pourrait dire peut-être plus de slogans féministes anarchistes, ça aurait été bien, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Mais peut-être que le manque de porte-voix pendant un bout a été peut-être aussi la cause de le scandage de slogans, plus par rapport à la grève étudiante, parce qu'évidemment, on le fait depuis 4 mois. Mais sinon, j'ai trouvé ça quand même bien. Je sais que j'étais inquiète lors de la dispersion, parce qu'on a dû faire un call de dispersion, parce que sinon, être prise en souricière. On était 250 environ. Fait que je trouvais ça malheureux qu'on ait à faire ça, parce qu'on s'en allait quand même, entre guillemets, tout bonnement. Puis aussi, par exemple, j'ai trouvé bien, à défaut d'avoir pu faire une manifestation plus grande et qui aurait pu toucher plus de personnes, qu'il y a eu beaucoup de médiatisation par rapport à ça. Je pense que tous les journaux, tu sais, les mainstream, là, common, là, qui en parlent, là, j'étais vraiment impressionnée. Puis tu sais, partout, il y a eu des photos, il y a eu le discours, ils ont repris un peu qu'est-ce qu'on a dit. Ils ont quand même bien fait leur devoir quand même. Donc c'est rare que souvent ils font juste parler de « Ah ben là, il y a eu telle arrestation, là, il y a eu telle chose. » Là, ils ont parlé de notre discours, de notre position. Il y avait du contenu dans leur compte-rendu de la manifestation que je trouvais bien. Puis tu sais, je veux dire, que ça passe, que là, les gens sont comme « OK ». Puis que non, on n'a pas laissé, même si on aurait pu faire d'autres choses plus intenses, on n'a pas laissé ça dans un vide féministe, dans un vide abolitionniste. Fait que je trouverais ça bien à ce sens-là. J'ai hâte de voir peut-être s'il y aura d'autres choses à ce niveau-là. Puis je sais aussi qu'il y a un groupe de femmes qui avaient gardé la bannière et puis qui étaient allées sur la rue Sainte-Catherine, tout près de Crescent, qui étaient allées se mettre sur la rue avec la bannière, un petit groupe de femmes après. Donc c'était une autre belle action. Puis tu sais, la bannière est quand même assez imposante, on l'a vu dans plusieurs médias, donc je trouvais ça bien qu'il y ait une petite visibilité, tu sais, une vue abolitionniste pendant le Grand Prix. C'est une des seules manifestations, à part les manifs spontanées ou les flash mobs ou les manifs de nuit, une des seules activités pendant le Grand Prix qui a un peu fonctionné. Donc on peut quand même peut-être se féliciter de ça, malheureusement. Mais oui, j'ai quand même apprécié, malgré que c'était beaucoup d'organisation, pour que le plan tombe un peu à l'eau, mais n'empêche que j'étais contente de voir qu'il y avait des abolitionnistes qui étaient dans un contexte répressif, motivés, et qui étaient là. En fait, c'est dernièrement, c'est comme dans un contexte comme ça, dans des tout petites actions, des tout petites choses, c'était là où il y avait quasiment plus de monde, là. Fait que je trouvais ça bien. Alors, au moins, il y a des abolitionnistes qui sont bien compris dans leur position, qui sont bien motivés. Ça va être un petit baume sur tous ces plans-là qui ont dévié.